Il fut d'abord question de décider si sœur Bénice les accompagnerait, mais sœur Eustace finit par lui ordonner de rester pour tenir la tour. Son épée ne servirait pas à grand-chose contre les risques qu'ils allaient probablement courir, et le voir ne ferait qu'enflammer davantage la colère de la veuve. Le chevalier Brun ne se montra pas excessivement difficile à convaincre. Après que Dunk l'eut aidé à débloquer les supports de fer qui maintenaient la partie volante de l'escalier contre la maçonnerie, il grimpa prestement dénouer la vieille corde de chanvre grise et tira dessus de toutes ses forces. Avec des craquements et des grincements sinistres, l'échelle de bois remonta en oscillant, se plaçant 10 pieds au-dessus de la plus haute des marches de pierre, jusqu'au niveau de l'unique porte d'accès à la tour. Sam Lavoussure et sa femme étaient déjà réfugiés tous deux à l'intérieur. La volaille en serait réduite à se débrouiller toute seule. D'en bas, juché sur son hongre gris, sœur Eustace lança d'une voix forte. « Si d'aventure nous ne sommes toujours pas de retour à la tombée de la nuit, je galoperai d'une tête jusqu'à au jardin, messire, et j'informerai Lord Tyrell de ce que l'autre garce a mis le feu à votre bois et vous a assassiné. »
Dunk descendit la colline derrière l'œuf et Mestre. Le vieux chevalier fermait le banc dans son armure qui quincaillait doucement. Le vent qui se levait pour une fois permettait d'entendre claquer les pans de son manteau. Là où prospérait naguère le bois de Watt, ne s'étendait plus sous leurs yeux qu'un désert fumant. Le feu s'y était largement éteint de lui-même quand ils atteignirent les lieux, mais il brûlait encore çà et là par plaques formant des îlots de fournaises au sein d'une mer de cendres et de scories. Ailleurs, les fûts d'arbres calcinés jaillissaient vers le ciel comme autant de pics noircis. D'autres arbres s'étaient abattus et gisaient en travers du trajet vers l'ouest, dans un fouillis de branches brisées et carbonisées, tandis que couvaient au creux de leur cœur de lugubres rougeoiements de braise. Le sol de la forêt était lui-même parsemé de zones incandescentes, et la fumée s'était amoncelée à certains endroits comme par nappe grise de brouillard bouillant. Sœur Eustace fut affligée de quinte de toux telle que pendant un moment Dunk redouta qu'il ne soit contraint de rebrousser chemin, mais l'accès finit par passer. Leur chevauchée leur fit croiser la carcasse d'un daim rouge et, plus tard, les restes de ce qui avait peut-être été un blaireau. Nulle trace de vie de rien nulle part, les mouches exceptées. À croire que les mouches étaient capables de survivre à n'importe quelle espèce de calamité.
Le champ de feu a dû présenter ce genre d'aspect, commenta sœur Eustace. C'est là que débutèrent tous nos malheurs il y a 200 ans de cela. Le dernier des rois verts périt au cours de cette bataille avec la plus fine fleur du bief tout autour de lui. Mon père assurait que le dragon-feu répandait une chaleur si insoutenable que les épées des combattants fondaient entre leurs mains. Après coup, les lames furent regroupées pour aller servir à la fabrication des trônes de fer. Au jardin fut dépossédé de ses rois au profit d'intendants, et les os gris déclinèrent en s'amenuisant, tant et si bien que les maréchaux des marches du Nord finirent par n'être plus rien que des chevaliers fiéfés, voués à la féauté vis-à-vis des Rowan.
Faute de rien avoir à répliquer, Dunk laissa retomber le silence pendant un certain temps, jusqu'à ce que sœur Eustace reprenne après une nouvelle quinte de toux.
« Sœur Duncan, vous vous rappelez l'anecdote que je vous ai contée ?»
Peut-être bien, sœur, confessa Dunk. Laquelle?
Celle du petit lion.
Je me la rappelle en effet. Il était le benjamin de 5 fils.
Bon, il toussa de nouveau. Lorsqu'il abattit Lancel Lannister, les gens de l'Ouest firent demi-tour. Sans roi, il n'y avait plus de guerre. Vous comprenez le sens de ce que je dis là?
Oui. Convint Dunk, non sans répugnance.
Pourrais-je tuer une femme?
Une fois n'étant pas coutume, il aurait bien voulu être en l'occurrence véritablement aussi lourd qu'un vrai rempart. Il faut coûte que coûte empêcher les choses d'en venir là. Je dois coûte que coûte empêcher les choses d'en venir là. Une poignée d'arbres verts se dressait encore à l'endroit où le chemin de l'ouest franchissait l'échiquetée. Leur tronc n'était brûlé et charbonneux que d'un seul côté. Juste au-delà, les eaux miroitaient sombrement. Bleu et vert, songea Dunk, mais il ne reste plus trace d'or. La fumée avait voilé le soleil. Sir Eustace fit halte en arrivant au bord des flots.
« J'ai fait un vœu sacré. Je ne traverserai pas cette rivière, pas tant que les terres de l'autre rive seront à elle. »
Il était revêtu de mailles et de plates par-dessous son surcot jauni. Son épée reposait sur sa hanche.
« Et si elle ne vient jamais, sœur ?»
questionna l'œuf. « Par le fer et par le feu, » songea Dunk.
« Elle viendra !»
Et elle vint. Au bout de moins d'une heure, ils entendirent d'abord ses chevaux, puis le vague cliquetis métallique d'armure tintinabulante qui se renforçait progressivement. Il était difficile, à cause des nuées capricieuses de la fumée, de préciser à quelle distance se trouvaient les survenants. Et le doute ne cessa que lorsque le porte-étendard de la dame émergea du rideau gris dépenaillé. Sa hampe était couronnée par une araignée de fer peinte en rouge et blanc. Au-dessous pendait mollement la bannière noire des tissiers. En les apercevant sur l'autre berge, l'homme fit à son tour halte sur le bord de l'eau. Sir Lucas Milopin fit son apparition à un clin d'œil après, armé de pied en cap. C'est alors seulement que Lady Rohan se présenta elle-même, montée sur une jument d'un noir de charbon, parée de fils de soie d'argent qui l'enveloppaient comme dans une toile d'araignée. Le manteau de la veuve était taillé dans le même matériau. Il virevoltait autour de ses épaules et de ses poignets, avec une légèreté aérienne. Elle avait elle aussi revêtu une armure complète, aux écailles émaillées de verre et damasquinées d'or et d'argent. Cette tenue lui allait comme un gant, et elle avait l'air de s'être tapissée de feuilles estivales. Sa longue natte rouge lui battait les reins au rythme de sa monture. Septon Sefton marchait auprès d'elle, le teint cramoisi sur un grand hongre gris. Elle était flanquée de l'autre côté par son jeune maître, Séric, sur un mulet, lui. Des chevaliers venaient derrière, une demi-douzaine, assistés par autant d'écuyers. Une colonne d'arbalétriers montés constituait l'arrière-garde, qui se déploya de part et d'autre de la route, en atteignant l'échiquetée, lorsqu'elle avisa Dunk qui attendait immobile sur le bord opposé. En tout état de cause, il avait face à lui 33 combattants, si l'on exceptait le septon, le maître et la veuve elle-même. L'un des chevaliers lui attira tout particulièrement l'œil par son allure de gros baril chauve, accoutré de mailles et de cuir, sa physionomie coléreuse et l'affreux goitre qui lui déformait le cou. La veuve rouge fit avancer sa jument jusqu'au bord de l'eau.
« Sœur Eustace, sœur Duncan, lança-t-elle par-dessus les flots, nous avons vu votre incendie sévir durant la nuit. »«
Vu ! »
riposta sœur Eustace d'une voix tonitruante.
« Oui, vous l'avez vu, après l'avoir allumé. »
« Voilà une infâme accusation,
digne de l'infamie commise. »
« Je dormais dans mon lit, la nuit dernière, entouré de toutes mes femmes. » Ce sont les appels lancés du haut des murs qui m'ont réveillé, comme ils ont réveillé presque tout le monde. Des vieillards ont escaladé les marches abruptes de la tour pour savoir ce qui se passait. Et l'éclat rouge de l'illumination a fait pleurer de terreur des enfants au sein. Et voilà tout ce que je sais de votre incendie, sœur.
« C'était votre incendie, femme !»
maintint sœur Eustace.
« Mon bois a disparu. Je dis bien disparu !»
Septon Sefton s'éclaircit le gosier.
« Sœur Eustace ! »
fit-il d'une voix de stentor.
Il éclate des incendies jusque dans le bois du roi, et même par temps de pluie. La sécheresse a transformé tous les nôtres en fagots de sarments. »
Lady Rohan leva une main puis la tendit alentour. « Regardez un peu mes champs, Osgris. À quel point ils sont desséchés. J'aurais été démente d'allumer du feu. Si le vent avait changé de direction, les flammes auraient risqué tout aussi bien de sauter la rivière et brûler la moitié de mes propres récoltes.
« Aurait risqué !» brailla Sir Eustace. « Ce sont mes bois qui ont brûlé, et c'est vous qui les avez brûlés. Tout laisse présumer que vous avez tramé quelque charme maléfique pour orienter le vent, de même que vous avez recouru à votre magie noire pour faire périr vos maris et vos frères. »
Les traits de Lady Rohan prirent une expression durcie, du genre de celle que leur avait vu adopter Dunk juste avant qu'elle ne le gifle.
« Baliverne ! » répliqua-t-elle au vieillard. « Je ne gaspillerai pas un instant de plus à discuter avec vous, sœur. Livrez-vous même Bénisse au bouclier brun ou nous viendrons personnellement nous emparer de lui. »«
Cela, vous ne le ferez pas !»
déclara Sir Eustace d'une voix tonnante.
« Cela jamais vous ne le ferez !»
Sa moustache se tordit.
« N'allez pas plus loin. Ce côté de la rivière m'appartient et vous y êtes indésirable. N'y escomptez aucune hospitalité de ma part, ni pain, ni sel, pas plus que d'ombre et d'eau. Je vous défends de poser le pied sur les terres Osgris. »
Lady Rohan attira sa natte par-dessus son épaule. « Sir Lucas, » dit-elle en tout et pour tout. Le double Flandrin fit un geste, les arbalétriers mirent pied à terre, tendirent les cordes de leurs armes à l'aide du croc enfilé dans l'étrier, puis retirèrent des carreaux de leur carquois. « À présent, sœur, » cria sa seigneurie dès qu'elle vit chacun de ses hommes prêts à tirer, « quelle est la défense que vous m'avez faite ?» Dunk en avait assez entendu. « Si vous vous aventurez à traverser la rivière sans y être autorisé, vous allez enfreindre la paix du roi. » Septon Sefton fit avancer son cheval d'un pas.
« Le roi n'en saura rien, ni ne s'en souciera, » lança-t-il. « Nous sommes tous les enfants de la déesse mère, sœur. Pour l'amour d'elle, écartez-vous. »
Dunk fronça les sourcils. « Je ne sais pas grand-chose des dieux, Septon, mais ne sommes-nous pas également les enfants du dieu guerrier ?» Il se massa la nuque. « Si vous essayez de traverser, c'est moi qui vous arrêterai. » Sir Lucas double Flandrin éclata de rire.
« Voici un chevalier des buissons qui brûle de jouer les hérissons, madame, » déclara-t-il à la veuve rouge. « Prononcez-en l'ordre, et nous lui mettrons une douzaine de carreaux au travers du corps. À cette distance, ils lui transperceront son armure, comme s'il s'agissait là d'une vulgaire feuille de papier. »
« Non, pas encore, sœur. » Lady Rohan considéra Dunk attentivement par-dessus les eaux. « Vous êtes deux hommes et un gamin. Nous sommes 33. » « Par quel moyen projetez-vous donc de nous empêcher de traverser ?»«
Eh bien, » répondit Dunk, « je vous le dirai, mais à vous seul. »
« Soyez satisfait. » Elle talonna les flancs de sa monture et la fit entrer dans le courant. Quand la jument eut de l'eau jusqu'au ventre, Lady Rohan l'immobilisa pour attendre.
« Me voici. Approchez-vous, sœur. » Vous avez ma parole que je ne vous coudrai pas dans un sac. »
Dunk n'eut pas le temps de répliquer que Sir Eustace l'empoigna par le bras.
« Allez la retrouver, » lui dit-il. « Mais souvenez-vous du petit lion. »
« À vos ordres, messire. » Dunk poussa tonnerre dans les flots, puis, s'arrêtant auprès d'elle, articula.
« Madame,
Sir Duncan. »
Elle tendit la main et lui posa deux doigts sur sa lèvre enflée.
« Est-ce moi qui vous ai fait cela, sœur ?
Personne d'autre ne m'a souffleté au visage dernièrement, madame.
Ce fut mal à moi. Un manquement à l'hospitalité. Le bon Septon m'en a vertement grondé.
Son regard se reporta vers sœur Eustace sur la rive.
Je ne me souviens pour ainsi dire plus de sœur Adam. Plus d'une moitié de ma vie s'est écoulée depuis. Je me rappelle que je l'aimais toutefois. Je n'ai aimé aucun des autres.
Son père l'a mis parmi les buissons de mûres avec ses frères, dit Dunk. Il était très friand de mûres.
Je me rappelle. Il les cueillait à mon intention et nous les dégustions dans une jatte de crème.
Le roi a pardonné au vieil homme pour Daemon, lui repartit Dunk. Il est temps que vous lui pardonniez pour Adam.
Donnez-moi Bénice et j'y réfléchirai.
Ce n'est pas à moi qu'il appartient de donner Bénice.
Elle poussa un soupir. Ah, j'aimerais autant n'avoir pas à vous tuer.
J'aimerais autant n'avoir pas à mourir.
Alors donnez-moi Bénice.
Nous lui couperons le nez, puis nous le rendrons et s'en sera fini de tout cela.
Non pas cependant, objecta Dunk.
Il reste toujours à régler le problème du barrage, ainsi que celui de l'incendie. Nous remettrez-vous les hommes qui l'ont allumé ?
Il y avait des insectes luisants dans ce bois, dit-elle.
Ce sont peut-être eux qui l'ont allumé avec leurs petites lanternes.
Veuillez cesser de me taquiner désormais, madame, l'avertit Dunk.
Nous n'avons pas de temps à perdre à cela. Démolissez le barrage et concédez à sœur Eustace l'eau pour compenser la perte de son bois.
Ce n'est que justice, non ?
Ce pourrait l'être si j'avais brûlé le bois en question, ce que je n'ai nullement fait. Je me trouvais à froide douve, au chaud, dans mon lit.
Elle abaissa ses yeux vers le courant.
Qu'y a-t-il donc qui puisse nous empêcher de franchir carrément la rivière?
Avez-vous disséminé des choses trappes parmi les rochers? Caché des archers sous les cendres?
Dites-moi ce que vous croyez susceptible de nous arrêter.
Moi! Il retira l'un de ses gantelets. À Cupussier, j'étais invariablement plus grand et plus vigoureux que les autres garçons, ce qui me permettait de les rosser jusqu'au sang, puis de les voler. Mon vieux maître m'a appris à ne pas le faire. C'était mal, disait-il. Et au surplus, il se trouvait quelquefois que des gamins aient pour frères aînés de solides gaillards. Tenez, jetez donc un coup d'œil à ceci.
Dunk fit tourner l'anneau qu'il portait au doigt pour le retirer, puis le lui tendit. Elle fut forcée de lâcher sa natte pour le prendre en main.
« De l'or ? » fit-elle en constatant le poids. « Qu'est-ce que c'est, là, sœur ?»
Elle le retourna dans le creux de sa paume.
« Un sceau ? Or et onyx ?»
Ses yeux verts se plissèrent tandis qu'elle l'examinait.
« Où avez-vous trouvé cela, sœur ?»«
Dans une botte, enveloppée de chiffon et fourrée bien tassée à l'emplacement du gros orteil. » Les doigts de Lady Rohan se reployèrent dessus. Elle loucha vers l'œuf et le vieux sœur Eustace.
« Vous avez pris un énorme risque en me montrant cet anneau, sœur. Mais quelle valeur a-t-il pour nous autres ? Si j'ordonnais à mes hommes de traverser ?»«
Eh bien, fit Dunk, cela signifierait qu'il me faut me battre
et mourir. »
« Selon toute probabilité, reconnut-il. Et puis l'œuf retournerait d'où il vient raconter ce qui s'est passé ici.
Pas s'il mourait aussi.
J'ai peine à croire que vous tueriez un enfant de 10 ans, rétorqua-t-il en espérant qu'il ne se trompait pas.
7 enfants de 10 ans.
Non, non, vous ne le tueriez pas, lui.
Vous disposez là de 33 hommes, ainsi que vous l'avez dit. » Les hommes parlent, ce gros lard, là, notamment. Si profond que vous creusiez les tombes, il n'importe.
La vérité finirait par sortir. Et alors, ma foi, il se pourrait fort qu'une piqûre d'araignée mouchetée soit capable de terrasser un lion. Mais un dragon est tout de même une espèce de fauve autrement coriace.
J'aimerais mieux être l'ami du dragon.
Elle essaya d'enfiler l'anneau sur ses propres doigts.
Il était trop large, même pour son pouce. Dragon ou pas, il faut que j'aie bénisse au bouclier brun.
Non.
Vous avez 7 pieds de haut d'opiniâtreté.
Moins 1 pouce.
Elle lui rendit l'anneau. Je ne puis retourner les mains vides à Froide Douve. On dira que la veuve rouge a perdu son mordant, qu'elle s'est révélée trop pusillanime pour faire justice, qu'elle n'a pas été capable de protéger ses petites gens. Vous ne comprenez pas, sœur?
Il se pourrait que si.
Mieux que vous ne savez. Je me souviens qu'un jour, je ne sais quel hobereau des terres de l'orage prit sœur Arlan à son service pour l'aider à combattre je ne sais quel autre hobereau. Quand j'interrogeais mon vieux maître sur ce qui motivait leurs affrontements, il répondit
« Rien, mon gars, des bisbilles d'emmerdeurs, c'est tout. »
Lady Rohan le foudroya d'une mine scandalisée qu'elle ne put contrôler plus d'une fraction de seconde, avant que celle-ci ne s'épanouisse en un radieux sourire. « J'ai subi dans ma vie des milliers de politesses creuses, mais vous êtes bien le premier chevalier qui se soit jamais permis, en ma présence, le terme d'emmerdeur. » Son visage constellé de sons se rembrunit. « Ces bisbilles d'emmerdeur ne servent au seigneur qu'à mesurer leurs forces respectives. Et malheur à n'importe lequel de ces hommes qui montrent la moindre faiblesse. Une femme se trouve devoir forcément s'afficher 2 fois plus emmerdante si elle se berce de l'espérance de gouverner. Et si le malheur veut en outre que cette femme-là soit toute petite, l'hormose Cassel convoite mes monts fer à cheval. Sir Clifford Conklin se prévaut d'anciens droits sur Lac Feuillu. Ces minables de Durwell ne subsistent qu'en volant du bétail, et, sous mon propre toit, j'ai le double Flandrin. Il ne se passe pas de jour que je ne me réveille en me demandant si ce n'est pas celui qui l'aura choisi pour m'épouser de force. » Sa main se resserra sur sa natte aussi violemment que s'il s'agissait d'une corde qui la retenait en suspens, ballante, au-dessus d'un précipice.
« Il veut le faire, je le sais.
Il ne se contient que de peur d'essuyer ma colère exactement comme Conklin et Moss Cassel, et les Durwell suspendent prudemment leurs pas sur les chapitres où leurs intérêts risqueraient de froisser ceux de la Veuve Rouge. Si l'un d'entre eux se figurait pendant un seul instant que je me suis amadoué, que j'ai cessé d'être implacable, Dunk renfila l'anneau à son doigt, puis tira sa dague. À la vue de l'acier dénudé, les yeux de la veuve s'agrandirent démesurément.
« Que faites-vous là ? »
se récria-t-elle. « Avez-vous donc perdu l'esprit ? Il y a 12 d'arbalètes braquées sur vous. Vous avez souhaité 100%. » Il appliqua la lame contre sa propre joue. « On vous a menti. L'estafilade à votre terrassier, ce n'est pas Bénisse qui l'a faite. C'est moi. » Il appuya le tranchant de la lame dans sa chair et la taillada vivement de haut en bas. Lorsqu'il secoua l'arme souillée de sang, quelques gouttelettes éclaboussèrent le visage de Lady Rohan. De nouvelles taches de rousseur, songea-t-il. Et voilà, la veuve rouge a son dû, joue pour joue.
Vous êtes complètement fou!
La fumée lui avait rempli les yeux de larmes. « Si vous étiez mieux né, c'est vous que j'épouserais. »«
Hey, madame, et si les pourceaux possédaient des ailes, des écailles et crachaient des flammes, ils seraient aussi valeureux que des dragons. »
Dunk reglissa le poignard dans son fourreau. Sa blessure commençait à l'élancer, le sang ruisselait le long de sa joue et dégouttait sur son gorgerin. L'odeur fit renacler Tonnerre qui piaffa dans l'eau. « Donnez-moi les hommes qui ont incendié le bois. »«
Mais personne n'a incendié le bois, » répliqua-t-elle.
« Mais si l'un de mes gens l'avait réellement fait, ça aurait été forcément pour me complaire. Comment pourrais-je vous donner quelqu'un de semblable ?» Elle jeta un regard en arrière vers son escorte.
« L'idéal serait que sœur Eustace accepte tout simplement de retirer son accusation. »
« Les pourceaux susdits cracheront d'abord du feu, madame. »
Dans ce cas, je me vois dans l'obligation de soutenir mon innocence aux yeux des dieux et des hommes. Avertissez Sœur Eustace que j'exige des excuses ou une épreuve judiciaire. À lui de choisir.
Et sur ce, elle fit volter sa monture afin d'aller retrouver ses compagnons.